realize consciousness is affected. There is this thing going on. We realize our consciousness is affected. There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Bonjour et bienvenue à En profondeur sur les ondes de sécurité 90.3 FM avec Blandine, Karine et Sofiane pour une heure de nouvelles alternatives. Aujourd'hui, ça va être le début d'un spécial du mois sur les 10 ans des événements de Seattle des 30 novembre au 3 décembre 99 qui marquaient l'imaginaire du mouvement altermondialiste, pour ne pas dire anticapitaliste. Alors nous avons une entrevue avec Catherine Caron de la revue Relations, mais aussi le calendrier militant et bien d'autres surprises. Restez avec nous sur les ondes de sécurité 90.3 FM.
Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous.
système n'a rien sans nous. À nous de reprendre l'espace public pour récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On n'est pas le système en voulant le détruire. On n'est le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main. Car les leurs sont pleines de sang, échangeant. On a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et pour non plus nos compétences capables. Pour nous est à la résistance qui est en route. On fait tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde. Et s'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le monde. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu.
Alors bonjour Catherine.
Bonjour.
Tout d'abord, qu'est-ce que la revue Relation pour nos auditeurs et auditrices qui ne la connaîtraient pas?
Oui, alors Relation, c'est une des plus anciennes revues au Québec. Elle date, elle a été fondée en 1941. Elle a traversé toutes les décennies. C'est les jésuites qui l'ont fondée et qui la soutiennent toujours. C'est une revue d'analyse sociale de gauche qui représente en fait une diversité quand même de courants de la gauche. C'est beaucoup des chercheurs, des professeurs, des penseurs, des militants. Ça va des anarchistes aux syndicalistes, en passant par toutes sortes des altermondialistes aussi. Alors, on est assez fiers de rassembler une diversité de points de vue de gauche dans une revue qui fait de l'analyse sociale. C'est une expression qu'on n'entend pas si souvent au Québec, ça, hein, mais ça veut dire, c'est pas juste une revue d'opinion, si on veut. C'est une revue où vraiment on cherche des auteurs qui ont une capacité, une expertise pour analyser les situations, les grands enjeux de société.
Puis, est-ce que vous vous définissez comme faisant partie des médias indépendants par opposition aux médias corporatifs? Comment vous voyez votre rôle social?
Oui, ah oui, certainement. Pour nous, la Relation, c'est une revue indépendante dans le sens aussi où on ne dépend pas du tout de la publicité. On n'appartient à aucun grand groupe de presse ou quoi que ce soit, là. Donc, on a vraiment une belle indépendance et on s'inscrit dans le mouvement social québécois depuis plusieurs années. Et je dirais, depuis les années 80, certainement, c'est une des revues qui fait un travail important sur la critique du système économique et politique dans lequel on vit. Elle est vraiment dans une tendance clairement à gauche, là, depuis 30 ans.
Donc c'est ça, depuis 30 ans, puisqu'effectivement le numéro dont on parle aujourd'hui, c'est quand même le numéro 736.
Oui, on va fêter nos 70 ans en 2011, c'est quand même, c'est vraiment remarquable au Québec, là, et encore pas assez connu malheureusement.
Quand même, effectivement. Alors donc, pour aller plus sur ce numéro qui a attiré notre attention parce qu'il est dédié aux 10 ans après Seattle, vous avez signé l'introduction à ce numéro sur ce sujet-là. Puis, donc, pour introduire ici le sujet, vous dites dedans que le cri de Seattle résonne toujours, que le fait que les élites économiques et politiques du capitalisme globalisé n'entendent toujours pas. Alors, c'est quoi ce cri-là? Mm-hmm. Puis, comment est-ce qu'il résonne, peut-être en rappelant un petit peu les faits de Seattle puis leur sens?
Oui. Vite dit, le cri, c'était un des grands cris contre ce qu'on appelle, en gros, la marchandisation du monde. Le fait que le domaine de la finance et du commerce ont pris une emprise complètement démesurée sur la société, tout est marchandisé. Et à Seattle, c'est un des grands moments où ce qu'on appelle un moment fondateur du mouvement altermondialiste, même s'il y avait eu bien des étapes avant, et notamment au Chiapas, au Mexique. Mais là, ça se passait au cœur même du système économique aux États-Unis. Des gens du Sud et du Nord se sont rassemblés pour pousser justement un grand cri contre un système qui oppresse toutes les populations du monde et qui génère beaucoup d'inégalités. Ce système-là, dans le cas de Seattle, l'institution qui incarne ça, c'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'OMC. Donc ça, c'est un des instruments de l'oppression de la finance et du commerce sur le monde.
Comment est-ce qu'il résonne encore ce cri justement dont tu parles?
Oui, c'est ça. Donc c'est pas une résistance à une oppression qui a commencé à Seattle, mais Seattle est un moment fort où, à cause de la grande médiatisation que ces manifestations-là ont eue et du fait qu'elles ont réussi à bloquer le sommet officiel qui avait lieu là, ça a été très 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 médiatisé et ça a mis cette cause-là sur la carte comme elle l'avait jamais été avant. Et depuis, ça n'a jamais cessé, à mon sens. Ça a pu baisser en intensité ou prendre différentes formes, mais depuis, à chaque sommet officiel, que ce soit le G20, le FMI, l'OMC, tous ces grands rassemblements-là ont toujours de la contestation dans la rue, et c'est hyper important qu'il y en ait, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, mais elle a jamais cessé. Et on va le voir encore à la fin du mois quand l'OMC va se rencontrer à Genève pour sa ministérielle qui, comme par hasard, tombe aux mêmes dates que Seattle il y a 10 ans. Ben, il va encore y avoir de la contestation et c'est ça. L'autre chose qui s'est passée aussi quand dans la revue on a voulu dire que ça n'a jamais cessé, c'est aussi l'autre forme que la contestation a prise par les forums sociaux. Où là, on n'est pas dans des expressions de contestation seulement, mais on est dans l'expression quand même d'une résistance à un système et de propositions multiples contre ce système-là. Fait que pour moi, c'est un peu les deux. Le cri résonne parce qu'il y a toujours des mobilisations importantes, et aussi parallèlement, il y a des processus comme les forums sociaux.
Mais justement, en fait, en parlant de baisse de mobilisation, vous admettez aussi, comme beaucoup de militants et militantes ont dû le faire, que, donc, en vous citant, là, cette pratique militante a toutefois perdu du terrain, surtout au Nord. Je dirais spécialement en Amérique du Nord, par rapport en Europe, il y a encore beaucoup de poursuivre les sommets, etc. Ici, il y en a quasiment pas. Il y avait des sommets des négociations secrètes du traité sur la prospérité. La sécurité. Je me rappelle être moi-même allée à des manifestations à Ottawa. Est-ce qu'on a loué un autobus? On était 20 dedans. On s'est ramassé 15 dans le froid à manifester contre Bush, Harper puis Calderon. Je vous avoue que c'est pas un grand moment de motivation. Donc, pourquoi, comment... Est-ce que ça continue, mais ça a quand même vraiment baissé?
Ouais. Oui, on a tous des souvenirs de manifs décevants. comment expliquer ça? Pour moi, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a un système qui est très fort et qui mobilise les personnes engagées sur tellement de fronts qu'il y a quand même un essoufflement réel. Je pense qu'il y a de ça là-dedans. C'est difficile de rester engagé, de rester dans une lutte constante sur des décennies, finalement, parce que ce système-là, c'est pas récent là, qui produit tous ces effets. Fait que je trouve qu'il y a un essoufflement. Deuxième facteur, c'est la répression, je crois, qui est à mettre dans l'équation. Beaucoup depuis septembre 2001, mais pas seulement. C'est sûr que il y a une criminalisation des mouvements sociaux, des mouvements militants. Il y a beaucoup, à Montréal, on a vu des pratiques d'arrestation massive de manifestants qui avaient strictement rien fait ou qui avaient même pas fait un pas encore. Et les gens qui subissent ça, c'est pas très drôle quand même. Là, ça dure des mois de temps de procédure avant que finalement on admette qu'on a exagéré, que les forces policières ont exagéré. Donc tous les phénomènes de répression, pour moi, veut pas, ont un effet aussi démobilisant. C'est pas facile après de travailler auprès de gens qui ont un bon niveau de conscience politique, de les amener à manifester ou à passer leur samedi comme toi et moi, on doit le faire plus souvent que la moyenne, là. Mais de venir dans ces occasions-là, de vivre le contexte répressif, c'est sûr que ça aide pas. Par contre, dans l'exemple quand tu dis la pratique en question dont je parlais dans ce texte-là, c'était plus spécifiquement pas l'action militante au sens large dans toutes ses formes, mais c'était l'action directe non violente, qui pour moi est ce qui a fait Seattle, dans mon analyse à moi, c'est d'abord un succès de l'action directe non violente, c'est les blocages, c'est les actions de désobéissance civile, c'est ça qui a fait Seattle, plus le fait qu'il y a eu une grosse manif syndicale ou qu'il y a eu un teach-in ou qu'il y a eu toutes les autres formes de mobilisation. Mais l'action directe a été capitale. Et après, elle a fait des petits. Ouais, c'est sûr qu'elle n'a pas été inventée là non plus, mais elle a fait des petits par la suite dans l'intermondialisme jusqu'ici au sommet de Québec 2001 et dans l'opération Salami, beaucoup, qui faisait de la désobéissance civile puis de l'action directe. Donc ça m'intéressait beaucoup de qu'on se rende compte qu'au Nord, c'est une pratique justement qui a de la misère à prendre un essor, qui s'est pas développée depuis. C'est difficile parce que c'est justement, quand on fait de l'action directe, on s'expose encore plus à la répression. Fait que c'est comme évident que ça demeure des formes marginales dans nos pays. Et ce qui explique aussi notre difficulté au Nord, c'est notre confort. Le confort et l'indifférence. Pour moi, ça, c'est très simple. Là, on vit dans une société qui est au cœur du système. Là, le Canada est un des pays les plus à droite en ce moment sur la planète. On a des machines médiatiques qui nous véhiculent ces idées-là à grand renfort dans tous les grands médias. Donc, c'est pas facile. La population sent pas, même s'il y a une crise ou des choses comme ça, la population vit quand même dans un confort relatif qui n'aide pas du tout à la conscientiser, à la politiser, à lui faire se rendre compte que l'intérêt public puis son intérêt réel des gens, souvent est bafoué puis ils s'en rendent même pas compte.
Puis justement, en parlant des grands médias, une petite question de curiosité. Il y a quelques mois, il y a un film grand public, style spectacle hollywoodien, qui met en scène la bataille de Seattle. Alors, je me demandais l'analyse sur ce film-là. Est-ce que c'est plutôt un exercice de mémoire collective intéressante ou une genre de récupération de l'industrie du divertissement qui fait que ça, comme le reste, devient juste un phénomène comme un autre qui se retrouve plus ou moins vidé de son sens?
Ouais, ben là c'est un peu mon opinion personnelle et un mélange de ce que j'ai pu lire là-dessus parce que j'ai vu le film et après j'ai su qu'il y avait un site web qui s'était créé en réaction à ce film-là qui s'appelle The Real Battle of Seattle. Et là, ce sont les personnes qui l'ont vécu, qui ont vécu ces mobilisations-là, qui réagissaient au film. Fait que j'ai un peu digéré tout ça. C'était bien intéressant, mais mon point de vue personnel quand je l'ai vu, c'est que c'est sûr que c'est un film qui est un peu gros, un peu caricatural, là. Mais je trouvais quand même qu'au bout du compte, c'était quand même un hommage. Moi, je l'ai reçu quand même comme un hommage à toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées. On comprenait bien dans le film, si quelqu'un qui le loue, on comprend quand même bien pourquoi ils se mobilisent, c'est quoi l'OMC, qu'il y avait la mobilisation à l'extérieur, qu'il y en avait à l'intérieur de l'événement aussi, ce qui est capital aussi pour comprendre. C'est ça qu'on a tenté aussi d'expliquer dans le numéro, que l'échec de Seattle pour l'OMC, c'est parce qu'à l'intérieur, les pays du Sud ont fait échouer les négociations. C'est pas juste parce que ça brassait dans la rue. C'est capital à comprendre. Donc, dans le film, on comprend quand même l'essentiel et on voit, oui, c'est des militants, mais c'est des citoyens, on les voit se mobiliser, faire face à la répression. Le film montre quand même bien aussi ce que c'est, puis que cette répression-là était totalement exagérée, démesurée et complètement dingue. Donc, au moins, ça montre ça. Ceci dit, oui, c'est gros, puis il y a des grosses ficelles, puis il y a des affaires un peu fortes en café, puis ceux qui l'ont vécu, eux, ben, ils le digèrent pas bien parce que pour eux, c'est une vision beaucoup trop grossière, c'est sûr. Mais moi, je l'ai trouvé un petit peu sévère pour ce qui est de condamner complètement l'effort. Je sais, par contre, qu'ils étaient déçus parce que ils ont été amenés à donner leur opinion sur le scénario puis à nourrir le processus de ce film-là, puis ils n'ont pas été suffisamment écoutés. Fait que ça, bon, c'est dommage, puis je peux pas rentrer dans ces histoires-là, mais moi, comme spectatrice, j'ai quand même trouvé que c'était malgré tout un hommage plus qu'une récupération.
Puis toujours dans l'introduction, une autre petite citation, vous écrivez « Notre espoir réside maintenant dans le fait que la crise globale actuelle donne raison aux altermondialistes qui n'ont cessé de décrier l'emprise démesurée de la finance et du commerce déréglementé sur la société. Le dogme néolibéral est discrédité plus que jamais auparavant. À nous, dans l'esprit de Seattle, de nous mobiliser et de saisir l'occasion pour qu'une transformation sociale radicale, si nécessaire à l'avenir de la Terre, à la réalisation des droits humains et à la reconquête de la pleine liberté humaine s'impose enfin. » J'ai trouvé ça très joli. Mais alors, je me suis quand même demandé, dans mon cynisme récurrent, sur quoi se fondaient ces espoirs-là. Puis c'était quoi les espoirs à venir, là, très concrètement? Est-ce qu'il y a des espoirs de mobilisation? Il y a beaucoup de gens qui parlent de 2010. Il y a quand même le G8, des grosses mobilisations face aux Jeux olympiques. Est-ce que c'est sur ces pistes-là que se fondent ces espoirs-là ou vers où?
Non. Pour moi, l'espoir comme tel, j'ai envie de te répondre, nous vaincrons. Mais l'espoir, on est à un moment intéressant, puis il faut s'en rendre compte malgré toutes les difficultés, peu importe où on milite, c'est difficile. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'avant, si tu veux, dans l'apogée du néolibéralisme, ils avaient le bénéfice du doute. Ils faisaient croire à tout le monde, on va créer de la richesse, on va entraîner la croissance, puis ça va se redistribuer comme par miracle. Et cette croyance-là, qui est fausse, Puis après, dans les faits, ça s'est vérifié que non, il n'y a pas de redistribution. Il y a plutôt une énorme concentration de la richesse, puis un processus d'accumulation, mais qui conduit pas du tout à une redistribution juste, puis à la résolution des problèmes d'inégalité ou aux problèmes environnementaux et tout ça. Ça, c'est vraiment démoli maintenant, alors qu'il y a 10 ans, ils avaient le bénéfice du doute au niveau, si on veut, de l'opinion publique. Là, ils l'ont pu. Et la crise qui vient de se produire, la crise financière, ben là, ça, c'est l'apothéose quand même. On se retrouve avec, par exemple, un paysan chinois qui subit une crise financière qui origine aux États-Unis et qui vient d'un excès de la folie des financiers de ce monde, dans lequel ce paysan-là n'a rien à voir. Fait que là, on a une espèce de globalisation des excès de la finance que les altermondialistes essayaient d'expliquer avant, mais qui n'est jamais apparu avec autant d'éclat. Malgré les crises en Argentine puis tout ce qui a pu se produire, mais tu sais, c'était pas planétaire comme la situation actuelle. Donc c'est dans ce sens-là, pour moi, qu'il y a un espoir. C'est là, ils sont vraiment discrédités et leur système est indéfendable. Donc c'est à nous d'en profiter. Là, on rentre dans la difficulté de l'affaire qu'on a déjà mentionné tantôt, c'est-à-dire ce qui est triste, c'est que c'est qu'on a du mal, nous, à profiter de la crise, toutes les personnes qui se situent à gauche sur l'échiquier. Pourquoi? Je suis pas une experte en mobilisation, puis c'est sûr qu'il va y avoir des mobilisations, comme on disait tantôt, OMC, le sommet de Copenhague, ensuite les Olympiques, le G20, ça va continuer. Mais tu as raison, effectivement, de douter de la capacité que nous on profite de la crise. Là, c'est vrai que moi aussi je suis plus incertaine, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a une carte dans notre jeu qu'on n'avait pas avant. Fait qu'il faut comme au moins l'admettre, parce que souvent il y a des gens qui s'en rendent même pas compte. Dans les mouvements dont je suis proche, entre autres les gens qui travaillent sur la question des paradis fiscaux, par exemple, ben ça fait des années qu'on en parle, mais là tout d'un coup on a l'impression qu'enfin il y a une brèche qui est en train de se créer et que le discours qui a été porté, les analyses, le fait les gens qui disaient les paradis fiscaux c'est indéfendable, ça prive tous nos pays de ressources importantes pour entre autres avoir des programmes sociaux, des services publics et tout ça. Ben là on a une brèche, tu vois. Fait que ça c'est mon espoir à moi, c'est qu'il faut garder une attitude persévérante, une attitude positive. Faut les voir, les brèches, faut les nommer. Puis c'est en le faisant qu'on va attirer des gens à nous aussi qui vont se rendre compte que, hey, go, on y va et on continue. Mais je suis d'accord avec toi que c'est quand même, c'est vraiment difficile. Je pense pas non plus que dans nos pays, on va revoir justement c'est plus possible aujourd'hui de faire des actions comme ils ont fait à Seattle puis d'avoir un impact comme ça, d'après moi, à cause des dispositifs de répression qui sont mis en place. Puis il y a un super bon article là-dessus de Francis Dupuy-Déry dans la revue qui explique vraiment bien que, d'après lui d'ailleurs, c'est même pas septembre 2001, c'était avant que c'était déjà en train de se mettre en place cette vision répressive là. Fait que j'ai pas de recette miracle, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas lâcher.
Puis justement, en fait, sur ce dernier sujet-là, pour prendre un peu d'avance, je pense qu'il y a un prochain numéro qui s'en vient en 2010 sur la désobéissance civile. Oui. Alors, ben, peut-être en définissant un petit peu la désobéissance civile, t'en parlais tantôt, mm-hmm. c'est quand même une pratique qui s'expose à une répression, répression ayant toutes sortes de pouvant s'exprimer de plein de façons. À Montréal, c'est d'étiquette, puis ailleurs, c'est des balles. Mm-hmm. Mais comment, face à un discours sécuritaire qui est de plus en plus fort, qui construit un espèce de autour de la construction du concept de sécurité nationale au Canada qui est de plus en plus impressionnant, donc battons-nous contre les méchants terroristes, protégeons la population au nom de la sécurité nationale, donc toute expression d'opposition politique mm-hmm. devient synonyme de menace pour l'ensemble de la population. Alors ça rend assez difficile l'expression de la dissidence dans ce temps-là quand même. Mm-hmm. Donc comment est-ce que tu vois la réappropriation des actes de désobéissance civile?
Ouais. Là, on n'a pas encore fait ce dossier-là, mais la raison pour laquelle on veut continuer, ça va vraiment être dans la continuité du dossier sur Seattle. Et ça vient aussi de ma vie à moi comme militante, pas juste comme rédactrice à relations. C'est le fait que les pratiques d'action directe ou de désobéissance civile, on en a besoin quand la démocratie fonctionne plus, finalement. Quand toutes les autres voies sont essayées, style dans notre pays, par exemple, les pétitions, les campagnes de pression, les manifestations, les formes classiques de contestation, produisent souvent peu d'effets et les élus se permettent d'ignorer ces choses-là facilement. C'est comme ça qu'on en arrive à penser, puis on est quand même nombreux dans le mouvement social, incluant ceux qui n'en ont jamais fait de désobéissance civile, qu'il va falloir franchir ce cap-là. Puis paradoxalement, dans une situation qui est plus répressive qu'avant, mais quelque part, il va falloir faire un pas parce que la démocratie est vraiment de plus en plus fictive. Et donc, il va falloir s'y former et le faire un peu dans un esprit quasiment à la Gandhi. Là. Mais pour arriver à quelque chose qui aurait une force quelconque, ça nous prend vraiment des bons... des leaders, des personnes qui encadreraient les gens à arriver à des formes de contestation comme ça, qui sont difficiles à vivre. Alors, pour l'instant, bon, je sais pas trop, on n'a pas exploré le sujet à la revue encore, mais on a des personnes à relation qui ont vécu qui ont fait de la désobéissance civile, qui ont payé pour, etc. Ça va être super intéressant aussi de réfléchir à ça. Mais disons que c'est pour ça qu'on veut l'aborder. C'est une perspective, qui pour nous est dans un horizon réel, que t'as pas le choix. La désobéissance civile, dans les définitions que j'ai pu en lire aussi, c'est ça, hein, c'est le moyen que tu emploies quand les autres ont échoué. Puis Seattle, d'ailleurs, c'était ça aussi, hein. C'était plein d'organismes qui avaient utilisé toutes les autres voies pour se faire entendre de leur gouvernement et dire ce qu'ils avaient à dire au sujet des négociations commerciales, et ils étaient pas entendus. Et c'est pour ça, puis ça, je le répète parce que pour toi puis moi, c'est peut-être clair, mais pour la population en général, c'est vu comme des formes quand même très radicales, la gang de Hurluberlu qui s'en vont faire des blocages puis qui se font arrêter, puis ça sert à quoi, tu sais? Mais ça sert parce que les autres outils démocratiques qu'on utilise tous nous sont déniés, finalement. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on veut poursuivre dans cette veine-là en tant que revue pour explorer le sujet, mais en tant que militant aussi dans les, si vous voulez, le cercle qui nous entoure de personnes, c'est des questions qui sont de plus en plus posées.
Alors, si on veut se procurer la revue ou...
La revue, elle est en vente dans tous les bons kiosques, toutes les grands magasins, là, les Renaud-Brie, les maisons de la presse, et vous pouvez aussi la commander directement à Relation. On a évidemment un site web, www.revuerelation.qc.ca. Puis on produit 8 numéros dans l'année. Alors, quand on lit Relation, c'est non seulement, là, évidemment, pour aborder, obtenir des analyses d'un autre genre que ce qui nous est servi dans les médias en général. Puis ben, la soutenir, c'est faire en sorte qu'on puisse continuer à faire ce travail-là, puis franchir un jour peut-être le cap de nous 100 ans.
Et puis aussi les soirées relations sur certains sujets qui sont aussi des occasions de mobiliser, faire connaître des sujets. Ouais. Sur le même site web, on peut avoir l'information?
Ben, les soirées sont davantage organisées par le Centre Justice et Foi qui publie Relations. Pour ça, c'est mieux d'aller au cjf.qc.ca. Mais effectivement, elles existent depuis 30 ans, les soirées relations à peu près, puis elles ont couvert une panoplie de sujets. Et c'est toujours l'occasion pour nous d'aller compléter une thématique qui a été abordée dans la revue. Souvent, une ou deux fois par année, on fait vraiment une soirée qui est en lien direct avec un dossier. La prochaine va être au mois de janvier sur un sujet complètement différent qui va être la beauté du monde. Alors, on va fuir un petit peu le côté de la lutte et du côté moins beau, justement, de la société. Mais on va se donner un petit répit au mois de janvier pour parler de la beauté du monde.
Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense que ça ouvrait bien le sujet des 10 ans de Seattle. Alors, on va continuer à en parler.
Ce qui est important, c'est de surveiller sur Internet. Hein. Au moment de la ministérielle de l'OMC, il y a des sites qui, souvent, si on cherche mobilisation contre l'OMC, anti-OMC.org, pour suivre un peu dans les médias alternatifs, ce qui ne sera pas raconté dans les officiels sur
O partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via.
portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore. Passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
À remercier tous ceux qui ont donné généreusement à la campagne de financement 2009 Allume-la. Il n'est jamais trop tard pour faire un don. Appelez au 514-907-9424 et informez-vous au sujet des cadeaux. N'oubliez pas le tirage des grands prix. Pour y participer, il est important d'honorer votre don avant le 30 novembre. Envoyez votre paiement par la poste ou en ligne au www.ckit.ca. Vous pouvez aussi venir à la station collecter votre cadeau du lundi au vendredi de 11h à 19h ou samedi et dimanche le 14 et 15 novembre au 3647 Université Royale Québec H3A 2B3. Merci encore à tout le monde!
Alors, il est 17h30, vous écoutez En profondeur sur les ondes de CKUT 90,3 FM et c'est l'heure du calendrier militant. Alors, je vais embarquer, puis Karine me suivra avec les événements de après-demain. Mais demain, vous avez deux trucs. Le premier, c'est une invitation à une rencontre ouverte du collectif d'intervention théâtrale Utile. Ils veulent créer une intervention pour la marche contre la violence envers les travailleuses du sexe qui aura lieu le 17 décembre, donc un mois après les rencontres. Alors, vous pouvez rejoindre le collectif Utile à 18h au Café Romolo demain, le mardi 17 novembre. Le Café Romolo au 272 rue Bernard-Ouest. Ensuite, vous avez une projection Cinéma Politica UQAM, je pense. Oui, UQAM. C'est donc une projection du film Squat de Eve Lamont. C'est un film qui retrace l'histoire de l'expérience du squat over there en 2001. Ça sera aussi une occasion de rencontrer la squatteuse, excuse-moi, la réalisatrice elle-même, ainsi que des squatteuses et squatteurs. C'est au local habituel de Cinéma Politica UQAM, le pavillon Hubert Aquin, dans le local A 2680, demain, mardi 17 novembre à 18h. Ensuite, Karine, il y a un screening de Myths for Profit, c'est ça?
Oui, comme on parle de films, à l'intérieur des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Malheureusement, c'est payant, c'est 8$ pour aller voir un film, mais bon, c'est quand même un film assez important. Ça s'appelle Myths for Profit. C'est la version originale anglaise avec traduction sous-titrée française. Et le sous-titre, c'est Canada's Role in Industries of War and Peace. Donc, c'est un documentaire qui explore le rôle du Canada dans l'industrie militaire et les personnes qui profitent des différents mythes qui sont maintenus à propos du Canada. Donc, le mythe que le Canada est un promoteur de paix, par exemple, un défenseur des droits humains, etc. Puis, ça explore le rôle de l'industrie du complexe militaro-industriel canadien dans la promotion de différentes guerres, dont la guerre en Afghanistan. Et c'est aussi... ça fait partie des rencontres internationales du documentaire, comme j'ai dit. Donc, vous pouvez aller voir la programmation. Il y a beaucoup de documentaires qui sont très intéressants. C'est au www.ridm.qc.ca. Ensuite, jeudi, il y a la conférence commémorative SPRY qui présente une discussion sur le journalisme citoyen en Birmanie, sur le thème « Une lutte pour la liberté des médias publics ». C'est à l'Université de Montréal et c'est au D550, au pavillon Marie-Victorin de l'Université de Montréal. En fait, c'est une projection de documentaire, le documentaire Burma VJ, qui va être en anglais. Et il va y avoir ensuite une discussion avec le député exécutif de Democratic Voice of Burma et l'agente régionale pour l'Asie à droit et démocratie. Et une période de questions. Donc, c'est ça, c'est jeudi le 19 novembre à l'Université de Montréal et ça commence à 18h. Et jeudi aussi, au bar Coop L'Agité, une nouvelle pièce de théâtre solo de l'artiste Normand Navrocki, qui est très actif dans le milieu anarchiste. Entre autres, on peut le voir au Festival de théâtre anarchiste en mai. Et c'est donc... La pièce s'appelle Catarola. Ça parle de l'anarchie, Mussolini, les gitans et gitanes réfugiés et l'Italie d'aujourd'hui. Et c'est basé sur son nouveau roman qui n'est pas encore publié. Et ça va parler de la résistance contre le fascisme dans l'Italie de Mussolini jusqu'au néofascisme d'aujourd'hui. Voilà, donc... Puis ça va être aussi le lancement de ces trois livres, ces trois nouveaux livres qui s'intitulent « Brain Food Trilogy »,« Breakfast for Anarchists », Lunch for Insurgents et Dinner for Dissidents. Bon, mais c'est à voir. Normand Navrocki, c'est toujours intéressant, ses performances. Et ça commence à 20h, donc au bar Coop L'Agité, qui est au 251 Dorchester, à Québec. Bon, c'est pas moi qui ai mis ça là-dedans. C'est que c'est à Québec. Bon, désolée pour ceux qui étaient tout excités d'y aller. Ben, enfin, si ça vous tente de vous rendre à Québec pour faire ça, allez-y. Merci, Sofiane. On a des difficultés de concentration.
Oh, mais tu sais, Norman, Montréalais, je me dis.
Oui, ben c'est ça. Quoi, puis l'agiter, c'est ici, ça? Ah non, c'est à Québec. Bon, ben voilà, il se passe des trucs à Québec aussi. Donc, si on a des gens qui nous écoutent à Québec, oui, ben allez-y. Donc, vendredi, ça se passe effectivement à Montréal. C'est une manif organisée par la Société bolivarienne du Québec contre l'intervention états-unienne en Amérique latine. Une manifestation pour la paix au Honduras et en Colombie. C'est en face du consulat du Honduras à 15h et du consulat de la Colombie à 16h. C'est au 1650 boulevard de Maisonneuve-Ouest. OK. Et voilà, donc, c'est ça, une manif. C'est bien, les manifs, il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci. Ensuite, c'est vendredi encore. Moi, je vous invite à un événement organisé par le groupe Politicus. C'est une réunion pour préparer la prochaine Radical Queer Semaine, donc la deuxième. C'est une invitation aux féministes, anticapitalistes, queer, anarchistes, dragues, lesbiennes, séropos, trans, artistes, tapettes, gouines, travelots, travailleurs et travailleuses du sexe, punk, fif, toxico, folle et à ceux, celles qui les aiment. Donc c'est une semaine... en fait, c'est 10 jours d'ateliers, performances, actions directes, des parties, etc. Donc sur ce thème-là. Et la réunion donc, va être vendredi, la première réunion de préparation de cette semaine-là. Donc, si vous voulez participer, c'est vendredi 20 novembre de 8h à 10h au 927 Avenue Mont-Royal-S, appartement A. Et est-ce que tu veux nous parler de la semaine prochaine, Sofiane, de qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine?
Mais oui! Alors, vous avez d'abord un lancement du nouveau numéro du Dominion. C'est le numéro spécial sur les Olympiques. Ça va avoir lieu à la Casa del Popolo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Olympiques, c'est un événement qui se passe à 4 ans. Excuse-moi. C'est donc précisément, ça traite des Olympiques en 2010, puis de toutes les faits que ça a eu sur Vancouver, sur les communautés autochtones autour de en Colombie-Britannique en général. Et puis, le Dominion a vraiment fait un travail excellent. En fait, moi, je viens de recevoir mon numéro, puis j'arrive pas à le poser. En fait, je suis en train de le lire maintenant. Le lancement est à 5h à la Casa del Popolo au 4873 Saint-Laurent, tout ça mardi le 24 novembre 2009. Alors c'est quelque chose de bon à faire mardi, si vous vous ennuyez de nous parce que vous venez de nous écouter, vous vous dites oh non, qu'est-ce qu'on fait. Puis ensuite, ça c'est sérieusement, je suis vraiment excité de le lire. Chers amis, alliés et supporters, après 6 longues années de lutte, le temps est enfin venu de célébrer une victoire majeure dans la bataille contre le régime des certificats de sécurité. Donc, ça parle de Adil Sharkawi, en fait, puis sa victoire, sa libération du certificat récente. Vous êtes conviés à une fête jeudi le 26 novembre à 18h au 17 10 Baudry. C'est... comme je disais, jeudi le 26. Puis 17-10 Baudry, près du métro Baudry. Sûrement aussi une occasion de prévoir la prochaine phase de la lutte parce que les certificats de sécurité, ça n'a pas évaporé. C'est encore dans le... Par là, il y a encore des gens qui les ont. Voilà, c'est ça pour le calendrier. Est-ce que je saute tout de suite? Oui, donc je vais enchaîner dans un petit quelque chose de spécial. C'est mon chum Michael de Québec qui me l'a envoyé il y a quelques mois de maintenant. Mais c'est encore, en fait, c'est très pertinent actuellement dans le contexte de la semaine d'action internationale contre le mur apartheid en Israël-Palestine. Israélo-Palestine, en tout cas en Palestine, puis voilà. Michael est allé en mai en Palestine pour vraiment faire le tour du terrain avec d'autres Québécois, Québécoises. Il a fait un retour avec Raymond Poirier de Radio Basse-Ville à Québec. Puis ça c'est le résultat, ça c'est l'entrevue que je vous pars. Voilà.
Parcours à travers Israël et les territoires palestiniens occupés de la Cisjordanie depuis dimanche dernier. Ils sont revenus ce week-end et l'un d'entre eux est avec nous ce matin pour revenir sur cette expérience, sur les raisons aussi qu'ils ont amené en ce sol et sur ce qu'ils en ont rapporté. Alors, l'un des membres donc de la Coalition de Québec pour la paix en Palestine, Michael Lessard, bonjour.
Bonjour.
Alors, mais peut-être pour nous mettre en contexte au départ, on pourrait revenir, prendre une petite minute pour revenir sur la situation là-bas en Palestine, en bande de Gaza.
Mm-hmm. Ben d'abord, je pensais faire une mise en contexte très rapide là pour le situer moins sur la carte. Dans le fond, imaginez qu'autour de Jérusalem, pensez aux villes de Bethléem, Nazareth et compagnie, c'est la grande région que jadis on appelait la Palestine. Donc, entre l'Égypte et la Jordanie. Dites-vous donc qu'à l'époque de Jésus, il y avait l'occupation romaine. Les Juifs de l'époque ont été massacrés par les Romains. Il y a eu une révolte des Juifs à l'époque. Donc, les Juifs se sont romancés à travers le monde, un peu partout. Au 20e siècle, donc en avance de 2000 ans, c'était l'occupation britannique qui finissent par partir. Il y a beaucoup de Juifs qui retournaient des alentours en Palestine. Et déjà là, il a commencé à avoir de la violence. Déjà là, il y a certains colons juifs qui utilisaient des méthodes plus violentes pour obtenir des terres. Finalement, il y a une branche plus armée, si on veut, qui a réussi à prendre le contrôle de la Palestine globalement et ils ont déclaré que ça s'appelait Israël. Aujourd'hui, c'est rendu environ 76% juifs, le reste, c'est chrétiens, musulmans, etc. Ironiquement, aujourd'hui, ces personnes-là occupent à leur tour un autre peuple. Donc aujourd'hui, c'est les Palestiniens arabes qui sont sous occupation.
Et donc, c'est dans ce territoire-là, c'est dans ce contexte-là que, Michael, tu t'es rendu avec donc ces 16 autres Québécois, Québécoises
ouais. Pour le mettre, mais pour le mettre dans l'actualité, dans le fond, pensons à Gaza. Mm-hmm. Hein, c'est ça qu'on a vu récemment. Excusez-moi, je suis un peu à bout de souffle. Je suis arrivé à la course. D'ailleurs, je suis arrivé ce samedi, de retour. Donc, les bombardements de Gaza. Puis l'objectif principal de cette délégation-là, je pense que vous l'avez dit, de 16 personnes du Québec, c'était surtout de dénoncer le blocus. Il y a un blocus actuellement de Gaza, j'en reparlerai plus tard, mais on voulait aussi témoigner de l'occupation. Donc comment vivent les gens en Palestine dans les territoires occupés. On était donc 16. J'en nomme quelques-uns rapidement. Alors il y a des gens de la Fédération nationale des enseignants-enseignantes du Québec, des gens donc du syndicat aussi de la Poste, Fédération des femmes du Québec, Ligue des droits et libertés. Puis pour le fun, je vais nommer les quatre de Québec, de la région. Benoît Damour, qui est professeur de philosophie au cégep Lévis-Lauzon. Myriam Beaulieu, du regroupement des maisons des jeunes de Québec. Christian Mertel, de la Poste, et moi-même, du collectif de Québec pour la paix. Essentiellement, je suis un militant pour les droits humains.
Et le voyage, on peut se lancer, on peut plonger, si on peut dire, dans ce parcours-là que vous avez fait, donc, et qui vous a mené notamment vers la bande de Gaza. Alors peut-être, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as reçu? Je te laisse peut-être te lancer, tout simplement. Mm-hmm.
Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de m'en tenir à l'essentiel. Donc, surtout à qu'est-ce qu'on a vu. Hein? Donc, pas témoigner de qu'est-ce que j'ai lu dans des livres, mais de qu'est-ce qu'on a pu observer sur le terrain. Donc, comme vous l'avez dit, on a visité surtout la Cisjordanie, qui essentiellement, c'est des petits morceaux de qu'est-ce qui reste de la Palestine, au cœur même d'Israël. Donc, au cœur du pays israélien, c'est plein, qu'on pourrait dire, de petites îles. Donc, pas littéralement, là, mais c'est des bouts c'est comme des villages palestiniens séparés les uns des autres. Et ensuite, au bas, au sud, on a la bande de Gaza, qui elle est sous blocus et qui est contrôlée par une autorité différente. Vous l'avez souvent entendu parler, Gaza contrôlé plus par le Hamas. Mm-hmm. Les territoires occupés au centre d'Israël sont contrôlés davantage par le Fatah. Donc, c'est un peu comme deux gouvernements palestiniens différents. Mais grosso modo, j'aimerais commencer d'abord par parler de Gaza. Parce qu'il y a une urgence, et c'est pour ça qu'on s'est rendu là maintenant. Quand on dit que, bon, même la Croix-Rouge et même l'UNICEF arrivent difficilement et des fois pas du tout à rentrer à Gaza, ça vous donne un peu une idée que c'est un blocus réel, un blocus quasi total. On a, exemple, des camions alimentaires qui ont été saisis par Israël, exemple des pâtes spaghetti et compagnie, sous prétexte que ça serait un produit de luxe. Mm-hmm. J'ai parlé à la frontière même de ce blocus-là, on s'y est rendu, sachant très bien qu'on s'est bloqué. On a été invité par une agence des Nations Unies. On a tenté d'obtenir le permis et on a été bloqué malgré tout. Et il y avait un monsieur de Médecins sans frontières qui était là, je lui posais des questions. Il me dit, essentiellement, on laisse le minimum de médicaments et le minimum de nourriture rentrée pour maintenir les gens vivants, mais pas plus.
Donc, on ne veut pas nécessairement avoir une population en santé, là.
Non. Donc, essentiellement, il semblerait que la stratégie, c'est sûr que s'il y a beaucoup de décès, ça va créer un outrage mondial. Donc, il provoque des souffrances et des limites sévères. Hier, si je ne me trompe pas, l'Organisation mondiale de la santé a demandé la levée du blocus. Le secrétaire général des Nations unies a demandé la fin du blocus. Les hauts fonctionnaires des Nations unies et les agences humanitaires considèrent que c'est une violation du droit humanitaire, donc un crime. Et malgré tout, les médias de Québec décident que c'est pas important. Hein, on a beau se rendre à la porte du blocus en tant que tel à Gaza, on a beau se rendre à Cisjordanie et manger du gaz lacrymogène israélien, nous-mêmes, des Québécois, Québécoises, le Journal de Québec, le Journal Le Soleil considèrent que c'est pas d'actualité. Qu'est-ce qu'on s'est fait bien expliquer finalement, et c'est pas nouveau, on le sait, s'il n'y a pas explosion du sang, s'il n'y a pas des morts d'hommes physiques évidents, les médias considèrent que c'est pas important. Donc on peut étouffer une population complète, environ 1 million d'êtres humains, tant que c'est pas trop sanglant, les médias considèrent que c'est pas d'actualité.
Mais surtout qu'on en a beaucoup parlé avec la guerre, pourrait-on nous dire. Alors, dans le fond, ça se résorbe un peu. Mais, Michael, comment c'était un peu la frontière? Comment c'est organisé? Quel regard un peu t'as porté sur ce lieu-là, dans le fond, qui devient un mur, littéralement, entre deux populations, une prison? On parle de prison à ciel ouvert, là, pour Gaza, chez certains, du moins.
Quand on arrive à l'entrée de cette frontière-là, ça ressemble à un énorme aéroport international militaire. On a un grand mur, on a quelques soldats armés qui ont plutôt l'air des agents spéciaux. Bon, ça ressemble un peu à ça. Il y a une apparence de bureaucratie. Hein? On nous dit que ça prend un permis pour rentrer, alors que quand on pose des questions, on se rend compte qu'en réalité, c'est arbitraire. Ils décident à la pièce, selon leur stratégie politique, qui peut rentrer et qui ne peut pas rentrer. Nous, ce qu'on a fait, en tout cas, c'est qu'on a fait une sorte de mini-manifestation. On avait une banderole demandant la levée du blocus. On n'est pas resté trop longtemps, parce qu'on savait pas trop, là, les forces de défense israéliennes, là, comment ils vont réagir. Donc, on a fait une petite action, puis on est parti.
Et effectivement, parce que, dans le fond, on se sentait pas nécessairement en sécurité, entre guillemets, à agir, utiliser une liberté d'expression ou des choses comme ça dans cet endroit-là.
Ouais. Ben, en fait, en Israël, nous, comme touristes, si on veut, là, entre guillemets, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Normalement, les touristes ne visitent pas les territoires occupés. Et on le sentait. On sentait que t'es pas supposé de voir les Palestiniens. Ça, je pourrais en reparler peut-être plus tard, là, mais j'avais soit le sentiment qu'il fallait pas en parler, hein, que si on osait mentionner qu'on voulait visiter les Palestiniens et leur poser des questions, on avait peur d'être bloqué, de pas pouvoir rentrer même en Israël. Donc, ça vous donne un peu une idée du climat d'état de guerre, hein, quelque part.
Et ben notamment, on parle de territoires palestiniens occupés. C'était pas nécessairement donc chose évidente en termes de discours de dire ben ok, on veut aller là, on va aller rencontrer ces gens-là. Comment ça s'est passé sur le terrain? Comment le contact s'est fait aussi sur le terrain?
Ben, en fait, nous, on est passé par des Israéliens qui dénoncent l'occupation. Actuellement, ils sont plutôt marginalisés. Hein, les mouvements, je pourrais peut-être en parler plus tard, mais les mouvements, disons, anti-guerre ou anti-occupation ou anti-racistes, puisqu'il y a un problème de racisme quand même important dans ce conflit, c'est des Israéliens qui nous permettent de voyager, puis de se promener, qui nous permettent de passer facilement les checkpoints. Donc, les points de contrôle, il y en a, je ne sais plus combien, là, j'ai perdu le compte. Mais grosso modo, comme je disais tantôt, c'est des villages palestiniens coupés les uns des autres, coupés par des autoroutes réservées aux Israéliens. Dans certains cas, on a, comme vous le savez, le mur de séparation, des clôtures militaires un peu partout et des colonies de gens qui rêvent à ce que... Il y a des gens qui veulent qu'Israël soit purement juif, qui créent des colonies un peu partout. Donc, on zigonne à travers ces villages-là. Mais j'ai un exemple concret que je trouve intéressant. C'est le village de Belin. Intéressant parce que, bon, ils ont usé des moyens non violents, des tactiques légales pour se défendre d'une colonie qui... agressivement venait construire le mur de séparation, si on veut. Souvent, il fait un trajet qui vise à voler des terres. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, il rentrait là, un bon 4,5 km à l'intérieur d'une zone interdite et il allait chercher vraiment la zone agricole de ce village-là, par exprès. Les Palestiniens n'ont pas les moyens armés ou autres pour se défendre. Elle faisait donc des manifestations non violentes, mais l'armée israélienne avait des armes quand même assez sophistiquées, donc c'était pas très efficace. C'était plutôt dangereux. Il y a déjà des milliers de blessés dans ce village-là. Donc finalement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à utiliser le droit pour faire valoir leurs droits, justement. Donc, entre autres, il y a des entreprises québécoises et canadiennes qui sont poursuivies par ce village-là, hein, donc des entreprises d'ici, qui construisent cette colonie illégale. Illégal selon le droit national, mais aussi un peu selon le bon sens. Ils ont aussi réussi, étrangement, à tuer le droit israélien. Je dis étrangement parce qu'Israël invente un peu ses lois au fur et à mesure. Elle a tous les pouvoirs, hein, quelque part, Israël. Donc, c'est intéressant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dépassé la nuit, subtilement, ils ont dépassé le mur, puis ils ont réussi à construire une petite maison. Ils ont improvisé une petite maison en respectant les lois israéliennes. La fondation est en béton. Ils ont respecté les règles techniques pour que ce soit considéré une maison que tu ne peux pas détruire n'importe comment. Ça prend un permis. Ça l'a forcé la justice israélienne à reconnaître, tiens, il n'est pas supposé d'avoir de maison là. Donc, la colonie aussi est illégale. Donc, ils ont réussi à mettre les Israéliens dans le pétrin avec leurs propres lois. Et pour l'instant, ça fonctionne. La colonie est gelée. Et là, sont devant la justice, sont en train de gérer ça. Est-ce qu'ils vont gagner? Tout le monde est un peu pessimiste parce que vraiment, ils n'ont pas vraiment de pouvoir.
Mais ça devient, dans le fond, c'est un recours intéressant, donc qui reste aussi dans l'action non violente au bout du compte. Là.
Ben absolument, ça devient une lueur d'espoir pour tous les Palestiniens qui ont très peu, comme je disais, de droits et de pouvoirs. Et ça attire beaucoup des gens comme nous, hein, à l'international. À chaque semaine, il y a une manifestation où ils avancent vers le mur. Il y a beaucoup de gens, d'Israéliens aussi, hein, d'Israéliens contre l'occupation et des gens d'autres le monde qui vont les supporter. Nous, on était là, avec nos drapeaux québécois et canadiens. L'objectif, c'est que le soldat israélien, quand il voit ça, modère ses transports. Donc, on a mangé beaucoup de gaz lacrymogène, mais sans plus. Je dis sans plus parce qu'ils ont tout un arsenal. Là. S'il n'y a pas d'observateurs, parfois, il y a des décès. Il y en a eu un il y a environ 3 semaines. Un jeune homme du village qui s'est fait tirer à bout portant par un gaz lacrymogène. Il faut savoir que c'est une grosse balle. Normalement, tu n'es pas supposé tirer directement sur la personne. Il est mort pratiquement sur le coup, sans compter les milliers de blessés. Donc, c'est important qu'il y ait des gens qui soient là. Oui.
Et visuellement, en fait, tu parlais du mur, justement, mur donc qui sépare, au bout du compte, les territoires, les colonies des territoires palestiniens. Comment ce mur-là s'intègre dans le paysage? Comment on le perçoit? Là, j'imagine que ça t'intègre plutôt mal, mais...
Ça a l'air d'une prison. En fait, ironiquement, à un moment donné, on a passé sur le bord d'une prison et on s'est rendu compte que la structure, les murs extérieurs étaient identiques. Identiques, là. C'est la même architecture que le mur de séparation. Donc, non, c'est pas esthétique, là. Ça se veut un mur qui a l'air militaire, qui est militaire. Hein. Il y a des parties du mur qui ont des mitrailleuses automatiques, il y a des secteurs minés, etc. Là. Dans ce cas-ci, c'était plus une clôture. Mm-hmm. C'était plusieurs clôtures avec des soldats derrière.
Donc, tout dépendant, dans le fond, du niveau où on est rendu côté construction, dans le fond, dans le territoire.
Oui. En fait, les parties très mûres qu'on voit, c'est généralement plus de frontières importantes, là.
Okay.
Plus près d'intersections d'autoroutes majeures.
Et dans tout ça, parce qu'en fait, il y a toujours la question des rapports entre peuples. On a l'impression que et on le sait, en fait, des Israéliens qui sont pour justement le dialogue, pour qu'il y ait éventuellement création d'un État palestinien. En Palestine, il y a des gens aussi qui sont pour le dialogue. Mm-hmm. Il y a les modérés, il y a les extrémistes. Il y a eu monté à une certaine époque des extrémismes en Palestine, du moins c'est l'impression qu'on en avait mm-hmm. à l'international. Présentement, avec Benjamin Netanyahou, on a l'impression que c'est peut-être plus justement une voie plus à droite qui est en train de monter en Israël. Comment se passent un peu les relations entre les peuples?
Bon,
de ce que tu en as perçu. Là.
Pendant notre 7 jours, on a parlé à beaucoup de gens. En fait, c'est ça qu'on faisait constamment, intensivement, interroger, écouter les témoignages, incluant d'Israéliens. Ça saute aux yeux. C'est pas un secret, je crois, que l'extrémisme plus raciste, faut le dire malheureusement, mais aussi bon la montée de l'idée que Israël devrait être purement juif et donc qu'on devrait convaincre les Arabes de partir de différentes manières. Ça, malheureusement, ça s'est aggravé. C'est en montée. Ça saute un peu aux yeux, là. Donc, je dis pas que c'est la majorité des Israéliens. Je dis, par contre, que les groupes extrémistes, racistes, qui veulent que ce soit uniquement juif, ont le beau jeu actuellement. Avec le gouvernement en place, ils arrivent à faire avancer des lois très restrictives. Ils arrivent à utiliser toutes sortes de tactiques de répression, de vol de terre, de différentes manières. Et ça passe. Et la population, faut voir finalement que autour de 2000, il y avait l'intifada, donc une révolte populaire palestinienne où beaucoup de bombes avaient sauté en Israël. Les roquettes du Hamas, je dois dire que les roquettes du Hamas ont tué pratiquement personne, sauf que ça a créé un climat de guerre. Dans la psychologie des Israéliens, lorsqu'une roquette qui arrive vers leur village, évidemment, ils se réfugient dans un bunker, ils se protègent. Même si personne meurt, à la longue, ça a créé une grande colère, une grande peur aussi. Et le résultat, c'est ça, c'est que la population appuie maintenant l'idée que les Arabes n'ont peut-être pas leur place en Israël. Donc ça, c'est une aggravation. Je suis optimiste dans le sens que je me dis que ça ne peut pas durer longtemps. Je présume qu'il y a une modération qui va venir. Ça, c'est pas viable. De toute manière, il y a à peu près 4 millions d'Arabes en Israël qui, eux, sont environ 7 millions. Vaguement, j'arrondis les chiffres beaucoup, là. En fait, il y a environ 5 millions de personnes juives et sur à peu près 11 millions de personnes. Donc, c'est impossible. Ils sont incapables de se débarrasser des Arabes, même si certains extrémistes tentent de le faire. Donc, il y a de l'espoir. Puis là, où il y a de l'espoir, surtout, c'est que le discours palestinien a beaucoup changé. Il est beaucoup plus modéré. La raison très concrète, par contre, et nous le disent, on n'a aucun pouvoir. Là. C'est pas par la force armée ou par la violence qu'on va arriver à quoi que ce soit. On l'a vu justement avec les roquettes du Hamas. C'est pas fonctionnel. Donc, le discours actuel, qui est très positif, c'est de passer par l'éducation, la culture, par la solidarité internationale, par la communication. Donc, ils se disent, en parlant l'anglais, le français, on va réussir à faire en sorte que les médias présentent qu'est-ce qu'on vit concrètement. Et donc, ils ont espoir à ce niveau-là.
Et en terminant, Michael Lessard, militant pour les droits de l'homme, qu'est-ce que tu aimerais qu'on en retienne tout particulièrement de ce séjour que tu as fait, des questions, des réflexions que tu aimerais qu'on garde en tête justement au terme de tout ça?
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Mais moi, ce qui m'interpelle, entre autres, c'est que les mouvements israéliens qui luttent pour plus de justice, luttent pour de l'égalité entre tous les citoyens, citoyennes, peu importe leur religion, qui luttent contre le racisme, finalement, nous interpellent. Ils nous disent, actuellement, on est extrêmement marginalisé, réprimé. On a besoin vraiment de l'appui international. Les gens qui luttent contre l'occupation ou qui veulent juste parler de qu'est-ce que vivent les Palestiniens, la police confisque leur ordinateur, etc. Donc, je pense que ça, c'est important à retenir. Il faudrait peut-être rentrer en dialogue avec les Israéliens puis voir s'il n'y a pas moyen de calmer les ardeurs. Et évidemment, l'inverse est vrai aussi. Il y a de l'espoir du côté palestinien avec des stratégies d'éducation et de culture. Il faut les encourager. Il faut les appuyer. Mais honnêtement, ce que j'en retiens, et je ne suis pas tout seul, c'est un problème de médiatique. C'est un problème des médias. La guerre passe à la télévision. Tout ce que les Palestiniens font de bien ne passe pas à la télévision. Et même, j'en parlais tantôt, le blocus imposé à Gaza, qui, à mon avis, tue probablement plus de gens que les bombes, ça passe inaperçu. Le Journal de Québec a dit que c'était pas important.
Donc, ça s'agirait peut-être de changer un peu le regard qu'on porte in fine là, sur ce conflit-là, de s'y intéresser. Oui. Si la pression se fait à l'international, éventuellement, il va avoir obligation de faire ce dialogue-là.
Absolument. Puis, qu'est-ce qu'on a entendu? Il y a un espoir actuellement de cohabitation, malgré tout.
Alors, c'était Raymond Poirier en entrevue avec Michael Lessard. Et on arrive à la fin de l'émission. Il est moins deux. Puis, c'était En profondeur.
Oui, c'était En profondeur sur les ondes de CKUT. Et on vous rappelle que vous pouvez toujours réécouter l'émission sur nos archives en ligne sur le site de CKUT, ckut.ca. Et vous pouvez nous contacter pour des idées, des commentaires à l'adresse courriel de l'émission qui est enprof@ckut.ca, c'est bien ça?
C'est ça. Ou En profondeur@ckut.ca. Alors, on va